Je vais céder la parole à Monsieur Emmanuel de Cruchanel pour la neutralité de l'impôt.
Merci, Monsieur le Président. On aurait pu faire des questions sur les aspects internationaux avant d'attaquer les aspects de politique publique. La question de la neutralité de l'impôt est un très beau sujet. Et ça fait partie de ces sujets dans lesquels on rentre en disant il y a quelque chose qui m'agace, c'est le petit poids sous le matelas de la princesse, en disant il va falloir que j'aille y voir un de ces jours. Et en allant y voir, j'ai trouvé beaucoup de choses. Et donc, on n'a pas le temps, en un quart d'heure, 20 minutes, d'explorer toutes ces questions qui peuvent être parfois assez techniques et assez complexes. Et mon intervention serait plutôt une forme de... pas dire de dialogue, parce que vous ne pourrez intervenir qu'après, mais d'interrogation à haute voix sur un certain nombre de questions que je me pose, qui ne sont peut-être pas complètement abouties, mais qui m'amènent à reconsidérer d'un jour assez nouveau la question de la neutralité en droit, et en l'occurrence dans le droit fiscal. Alors, l'un des inconvénients du concept de neutralité, c'est qu'il peut facilement apparaître comme un concept un peu valise, transversale, que toutes les matières du droit ont l'occasion de toucher un moment ou un autre et qui permet d'ailleurs de faire un bon sujet de colloque lorsqu'on a différentes matières ou disciplines à réunir. Ce qui m'a frappé jusqu'à présent, c'est que la plupart des interventions, visent la neutralité du destinataire du droit. Alors, il peut s'agir de l'impartialité du juge. Alors, on a vu hier que c'était pas la même chose, mais finalement, on a bien du mal à voir où se situe la différence. Ça peut être l'objectivité du juriste. Ça peut être l'impartialité de l'État. Ce qui me frappe lorsqu'on parle de neutralité de l'impôt, c'est qu'il s'agit moins de viser la neutralité d'un destinataire de la règle que la neutralité du droit lui-même, du droit fiscal. Et là, ça vient modifier assez considérablement la donne, parce que ce qui est en jeu, c'est que reste-t-il du droit fiscal si on lui applique le principe de neutralité de l'impôt. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez aussi, dans cette composante, dans cette idée de neutralité de l'impôt, l'idée d'une neutralité de l'État, d'un État qui serait non interventionniste. Mais je pense qu'il y a quand même là deux notions qu'il faut distinguer. La neutralité de l'État comme destinataire d'un principe de neutralité fiscale, donc le non-interventionnisme de l'État, et ce que je perçois comme étant, à proprement parler, la neutralité de l'impôt, la neutralité du droit fiscal. Les deux sont souvent associés. On glisse facilement de l'un à l'autre. Un État interventionniste va avoir une pratique, disons, non neutre de l'impôt. Mais je pense qu'il est intéressant de distinguer ces deux notions. Et je pense que ça fait partie des hypothèses de travail que je vous soumets, mais l'une des difficultés à penser la question de la neutralité de l'impôt vient du fait qu'il y a eu un glissement dans le temps de l'un à l'autre. Quand on commence à lire un petit peu la littérature sur le sujet, on est constamment renvoyé au libéralisme économique du 19e siècle. En réalité, me semble-t-il, après avoir jeté un œil, le libéralisme du 19e siècle est assez peu concerné par la neutralité de l'impôt. Ce qui l'intéresse, c'est la non-intervention de l'État, et la question des effets de l'impôt se trouve traitée au regard de la question de l'incidence de l'impôt. C'est-à-dire l'idée que l'impôt qui vise le contribuable A va être reporté par le jeu des effets économiques sur le contribuable B, C ou D. Et donc ça, c'est la question de l'incidence de l'impôt. Et donc la question de la neutralité de l'impôt par rapport à A, B, C ou D ne peut pas se déterminer sans qu'on ait mesuré ces effets d'incidence. Donc il y a énormément de littérature au 19e siècle sur l'incidence de l'impôt, mais d'une certaine manière, ça évacue la question de la neutralité de l'impôt pour la concentrer sur la question de la non-intervention de l'État. Et je pense que cette insistance sur la neutralité de l'impôt est un phénomène, ce décalage en quelque sorte, est un phénomène plus récent. Il me semble, c'est le petit doigt mouillé en l'air, que le glissement doit se situer vers le milieu du XXe siècle, les années 40-50, peut-être très probablement dans le monde anglo-saxon et probablement du côté de l'école de Chicago. Et ce qui a été dit hier à propos de la philosophie de la neutralité, a fait écho un petit peu à ce genre de sentiment qu'il y a quelque chose qui se joue vers le milieu du XXe siècle dans le monde anglo-saxon autour de la notion de la neutralité du droit. Alors, que recouvre juste cette notion de droit fiscal neutre ? En première approximation, vous allez me dire, mais c'est absurde. Le droit neutre, ça n'a pas de sens. Plus exactement, un neutre... on connaît la position du Conseil constitutionnel sur les neutrons législatifs. Si c'est pour faire du droit qui ne modifie en rien la société, qui ne crée aucune modification de l'ordonnancement juridique, autant ne pas faire de droit. Ce n'est pas ce sens que porte le principe de neutralité de l'impôt, encore que, là c'est à nouveau une piste que j'esquisse, sur laquelle je reviendrai, finalement, lorsqu'on va au bout des choses, on n'en est pas forcément très loin, parce que l'impôt le plus neutre, au bout du bout, c'est l'impôt qui pèse le moins. Et donc, on a une sorte de dérive du principe de neutralité de l'impôt vers une forme d'inexistence de l'impôt, dont on a pu avoir des exemples avec les droits d'enregistrement. Donc, on construit une théorie du droit d'enregistrement comme étant un impôt non neutre. Et derrière, vous avez un processus d'extinction des droits d'enregistrement par abaissement des taux, jusqu'à arriver à des droits d'enregistrement forfaitaires de 500 euros pour des opérations pouvant concerner des apports de plusieurs millions ou milliards d'euros. Donc, si on raisonne en taux, ça revient à dire que l'impôt a disparu. Finissons cette introduction qui a déjà trop tardé, mais que recouvre aujourd'hui ce principe de neutralité de l'impôt ? C'est un concept qui est promu par les économistes, qui peut être présenté ainsi. L'impôt neutre est un impôt qui ne modifie pas les préférences des agents économiques. Donc avant l'impôt et après l'impôt, les préférences des agents économiques sont les mêmes. L'idée sous-jacente, c'est que vous avez une allocation optimale des moyens de production par le marché qui va révéler les préférences des acteurs économiques et que l'impôt est susceptible de perturber l'expression de ces préférences en modifiant les positions relatives des agents sur le marché. Alors, cette formulation apparaît dans un ensemble de travaux économiques, elle s'est diffusée en droit. L'un des relais les plus intéressants est l'OCDE. À propos d'ailleurs du droit de l'Internet, la question de la taxation de l'économie numérique, donc une réunion à Ottawa en 1998 qui a essayé de poser les principes structurants du droit fiscal, et ce qui sont devenus les Ottawa Taxation Framework Conditions, les conditions d'imposition modèle Ottawa, qui a été repris en 2014 par l'OCDE, toujours à propos de la fiscalité numérique, mais c'est là où il y a cet effort de poser les principes fondamentaux en matière de fiscalité. Alors je vous lis pour montrer la manière dont ça peut se présenter. La fiscalité devrait viser à assurer la neutralité et l'équité entre les différentes formes d'activité industrielle et commerciale. Un impôt neutre contribuera à l'efficience du système en garantissant une allocation optimale des moyens de production. Une distorsion assortie du coût correspondant se produit lorsqu'une variation de la ponction fiscale déclenche des variations de l'offre et de la demande différentes de celles qui seraient observées en l'absence d'imposition. En ce sens, la neutralité suppose également que le système fiscal permette un recouvrement des recettes qui minimise les discriminations pouvant influencer un choix économique donné. Ceci implique que toutes les formes d'activité soient soumises aux mêmes principes fiscaux et que le système remédie à tout élément pouvant remettre en cause les notions d'égalité et de neutralité dans l'application de ces principes. Bon, on reviendra sur l'apparition plutôt de ces notions d'égalité, de non-discrimination, d'équité qui flirtent avec, qui cousinent avec le principe de neutralité, mais je pense que vous avez compris maintenant le cœur de ce principe de neutralité de l'impôt. Alors, le fait que l'OCDE en fasse la promotion n'est évidemment pas indifférent. Qu'en est-il, si j'ose dire, en droit positif de ce principe de neutralité de l'impôt ? En 1996, Patrick Serloten faisait un article sur la neutralité fiscale, un principe obsolète, dans lequel il contestait qu'il s'agisse d'un principe, en l'absence de toute forme de consécration par le juge, et en y lisant une sorte de queue de comète de la pensée fiscale du 19e siècle. Le constat que je fais 20 ans plus tard, c'est que le principe est aujourd'hui consacré par le juge et donc est tout sauf obsolète, et on pourrait même parler d'un triomphe du principe. Alors cela ne vous surprendra pas, c'est le droit de l'Union européenne qui est le plus vigoureux promoteur du principe de neutralité de l'impôt. Si j'ose dire, les circonstances y sont favorables parce que vous avez la conjonction dans la perspective du droit de l'Union d'un État qui intervient pour fausser un marché. Qui pourrait intervenir pour fausser un marché, en tout cas qui est appréhendé comme cela. Donc le principe de neutralité permet de recouvrir, de conjuguer cette double dimension. Le principe est particulièrement dynamique. Alors, vous n'êtes pas des fiscalistes, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques de fiscalité. Donc on va vraiment parcourir très rapidement. Donc le principe est particulièrement dynamique en matière de TVA, qui est posé... Depuis, à la louche à nouveau, mais depuis une vingtaine d'années, la Cour de justice de l'Union européenne a érigé le principe de neutralité fiscale en principe fondamental du système commun de TVA. C'est vraiment le principe cardinal à partir duquel évolue aujourd'hui la jurisprudence sur la TVA. Deux domaines pour illustrer les conséquences que ça peut avoir. La limitation des mesures antifraude, qui vont être prohibées au nom... du principe de neutralité de la TVA. Alors c'est notamment l'arrêt Halifax qui est l'un des grands arrêts de référence en matière antifraude, mais si on remonte un peu, on trouve ça en 2000 dans l'arrêt Schmenk. Les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter en application de la directive TVA ne doivent pas aller au-delà afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude. Ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs. Elles ne peuvent dès lors être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par la législation communautaire en la matière. Deuxième exemple, toujours en matière de TVA, qui vous intéressera peut-être, c'est la question de l'assujettissement des organismes de droit public pour lequel la directive TVA prévoit une exonération. Eh bien, cette exonération est en train d'être mise en pièces par la jurisprudence de la CJUE au nom du principe de neutralité de la TVA, en partant du principe qu'il faut écarter finalement le caractère de droit public de l'organisme pour ne prendre en compte que l'activité. Alors vous me direz, ben éventuellement oui, pourquoi pas, pour préserver la libre concurrence sur un marché. Mais en fait, l'application du principe aujourd'hui s'est emballée. Et même lorsque l'activité n'est pas soumise à concurrence, et, ça c'est en 2008 à propos de l'Isle-of-Wight Council, c'est une question de parking géré par la collectivité publique sur l'île de Wight, voire même ne pourrait même pas être prise en charge, être ouverte à la concurrence. Et là, c'est une affaire qui est en cours. Les conclusions de l'avocat général ont été rendues ce mois-ci. On attend à propos d'autoroutes en Irlande qui sont éventuellement concédées. L'activité doit être assujettie à la TVA. Je vous prends Isle-of-Wight. Il s'ensuit que l'assujettissement des organismes de droit public à la TVA, blablabla, résulte de l'exercice d'une activité donnée en tant que telle, indépendamment de la question de savoir si les 10 organismes font face ou non à une concurrence au niveau du marché local sur lequel ils accomplissent cette activité. Deux exemples en matière de TVA. Le principe de neutralité de l'imposition est également un principe cardinal et extrêmement actif en matière d'imposition directe. Au travers de l'établissement, de la préservation de la liberté d'établissement ou de la circulation des capitaux, s'il y a des fiscalistes de droit des affaires qui sont cachés dans la salle, ils comprendront ce que je veux dire par là, mais deux directives qui sont particulièrement mobilisées, qui sont la directive fusion et la directive du régime mère-fille. Et vous avez tous les cabinets de conseil de France, de Navarre et d'Europe qui passent une grande partie de leur vie à travailler sur ces deux directives pour voir comment est-ce qu'on peut faire sauter des régimes d'imposition qui porteraient atteinte qui créerait une fiscalité différentielle et que donc on pourrait faire sauter. Il y a à chaque fois plusieurs millions d'euros à la clé. Juste un exemple pour vous montrer comment ça peut marcher. Alors, un exemple qui est doublement intéressant parce qu'il part de la directive fusion de 1990, mais en réalité, c'est la transposition par le législateur français de cette directive fusion qui en reprend l'esprit et pour lequel le juge que le juge doit s'est donné pour mission d'interpréter en lien ou en relation avec l'interprétation européenne de la directive fusion, ce qui fait que vous avez un effet de contamination des situations européennes vers des situations purement nationales. Je me fais plaisir, hein, c'est du droit fiscal. La situation est la suivante. Vous avez une société A qui fait un apport de titre à une société B sous le régime des fusions, donc en régime de neutralité fiscale, principe cardinal. Et puis la société B va procéder à une dissolution par confusion entre sa filiale et elle-même. Donc les titres vont disparaître et à ce moment-là, on va constater une moins-value ou une plus-value. En l'occurrence, c'est une moins-value. Problème, quel est le régime qu'on applique à cette moins-value ? Si c'était une moins-value à court terme, eh bien, c'est plus taxé qu'une moins-value à long terme. Et question subsidiaire, quel est le point de départ de la durée de détention ? Si c'est l'apport à la société B, eh bien, on est sur du court terme. Si c'est la date d'acquisition des titres par la société A, eh bien, on est sur du long terme. Donc, est-ce que l'opération d'apport doit être ou non prise en compte ? Réponse du Conseil d'État. En adoptant cette disposition, le législateur, donc la directive fusion, le régime des fusions en droit français, le législateur a entendu assurer la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des sociétés et à cette fin, sauf lorsqu'il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires. Donc, principe de neutralité, on élimine la signification fiscale d'une opération juridique qui était celle, qui n'est pas rien quand même, d'un apport de titre et donc un changement de propriétaire de titre de société. Vous l'aurez compris, ce principe de neutralité de l'impôt est très dynamique. Il est particulièrement dynamique en droit des affaires. Donc, je vous ai donné des exemples avec la question des fusions, de la circulation des dividendes. Et là, on rencontre un principe qui est érigé, qui est en réalité une traduction du principe de neutralité de l'impôt, et qui est érigé en principe cardinal du droit fiscal par les fiscalistes des affaires, qui est la notion de double imposition économique. La notion de double imposition économique revient à dire que, je vais prendre un exemple d'étudiant de licence 3 pour que vous compreniez. Bon, c'est l'exemple que je donne à mes étudiants en licence 3. Vous le connaissez déjà, donc. Mais c'est du droit des affaires. Vous avez une entreprise qui réalise des bénéfices. Et ces bénéfices sont appréhendés par l'entrepreneur qui va les utiliser. Il va être assujetti à l'impôt sur le revenu. Vous avez une société qui réalise des bénéfices, qui les distribue à ses actionnaires. Vous allez avoir une double imposition, une imposition à l'impôt sur les sociétés au niveau de la société et une imposition à l'impôt sur le revenu chez l'actionnaire qui perçoit des dividendes. On peut voir là une double imposition. Une double imposition si vous considérez que c'est le même bénéfice économique. Donc les économistes vont dire oui, c'est la même opération économique, c'est le même revenu, il n'y a pas de lieu de distinguer selon que c'est au niveau de la société ou au niveau de l'actionnaire. Tout ça devrait être homogène. La société décide de se restructurer et de créer une filiale, de devenir un groupe de sociétés. Et donc le bénéfice est réalisé au niveau de la filiale, est distribué au niveau de la holding et est distribué ensuite au niveau de l'actionnaire. Donc on va avoir un bénéfice au niveau de la filiale, imposition sur les sociétés, un bénéfice, perception des dividendes au niveau de la holding, imposition sur les sociétés, distribution à l'actionnaire, imposition au revenu. Donc là, on va avoir une triple imposition économique. Toujours sur l'idée que c'est le même profit économique. Donc, pour les économistes, ces mécanismes de double imposition économique, ça n'est pas une double imposition fiscale, ça n'est pas la même, c'est pas le même contribuable. La filiale et sa mère, ce sont deux personnes morales différentes. Ils ont des obligations fiscales distinctes. Mais pour les économistes, c'est le même résultat économique, donc c'est une double imposition qui pèse sur le même produit économique. Ils n'ont pas complètement tort au strict plan de l'économie. Donc la conséquence du principe de neutralité de l'impôt, c'est qu'il faut éliminer cette double imposition. Et pour cela, eh bien, en droit des sociétés ou en droit fiscal des sociétés, vous allez avoir une exonération des dividendes perçus par la mère sur les profits de sa fille. C'est le régime de société mère-fille. Mais on peut aller un cran plus loin, parce que les dividendes peuvent être, enfin le bénéfice peut être mis en réserve, et à ce moment-là, c'est les titres de la société fille qui augmentent, la mère vend les titres, réalise une plus-value. Donc si on veut avoir une vraie neutralité de l'impôt, eh bien il faut également exonérer la plus-value des surtitres. Et donc vous avez comme ça un phénomène de par contamination, parce qu'on peut également se poser la question de la circulation des déficits. Si une société réalise des déficits et des bénéfices, les deux se compensent. Si la filiale fait des déficits et la mère des bénéfices, les deux ne se compensent pas. La filiale ne peut pas distribuer des déficits à sa mère. Donc la neutralité de l'imposition implique qu'on mette en place un système permettant cette compensation des déficits avec les bénéfices. Vous voyez comment le principe de neutralité de l'impôt, de proche en proche, peut contaminer l'ensemble du système fiscal et finalement la logique juridique qui est derrière. Quand je vous dis que ce principe est mis en avant, alors vous prenez un livre de droit fiscal des affaires, par exemple le professeur Gutmann, vous le trouverez à toutes les pages fondant les règles qui sont proposées. Ce qui m'a amusé en préparant cette intervention, vous avez une QPC qui vient d'être rendue le 30 septembre 2016, vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas être à jour. L'affaire société Layer, c'est un problème un peu subtil. Enfin non, pas tant que ça. C'est une taxe de 3% sur les distributions de dividendes, même pour les sociétés mère-filles. Et on a créé une exception pour les groupes intégrés fiscalement. Et donc, les mères-filles, qui ne sont pas intégrées fiscalement, poussent des cris d'orfraie en disant « c'est pas juste, le groupe fiscal intégré, seuil de détention à plus de 95%, il bénéficie de l'exonération de la taxe de 3% sur les dividendes distribués, et pas nous. » Donc, QPC. Et dans le mémoire du cabinet d'avocats devant le Conseil constitutionnel, vous avez l'invocation d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République de neutralisation de la double imposition économique. Je sais que dans les mémoires, on tape large en se disant qu'il y a bien quelque chose qui va en sortir, et qu'ensuite ils vont défendre l'idée que ce n'est peut-être pas un principe fondamental, mais un principe structurant, etc. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on en est à l'idée qu'on pourrait peut-être constitutionnaliser le principe de neutralité de l'impôt et de prohibition de la double imposition économique. Alors, le temps m'est compté, mais un autre domaine où ce principe de neutralité de l'impôt est également extrêmement vivace, vivant et conquérant, c'est la fiscalité internationale. On a en matière de fiscalité internationale, depuis longtemps, le problème de la double imposition internationale. Pour le coup, c'est le même contribuable sur le même revenu d'activité, pour prendre un exemple de revenu, et, bon, activité ou patrimoine, mais imposé par deux souverains différents. Depuis longtemps, les États se disent que peut-être il pourrait être de bonnes politiques commerciales ou de bonnes relations entre États de prévenir, de limiter, d'atténuer les effets de cette double imposition économique. Mais quelque part, ça participe d'une volonté des États, d'une démarche volontaire des États. Ils ne sont pas tenus d'éliminer la double imposition internationale. Eh bien, de plus en plus, au nom du principe de neutralité de l'impôt érigé en principe cardinal du droit fiscal, eh bien, vous avez une revendication de l'élimination de la double imposition internationale, non pas comme une forme de concession des États qui renoncent à leur souveraineté dans un cadre conventionnel négocié, mais comme l'application d'un principe de justice transcendant la souveraineté des États au nom de cette neutralité de l'impôt. Donc, principe conquérant, je vous l'ai dit, qu'on peut repérer, dont on peut repérer un certain nombre d'effets, là aussi il y a une enquête à faire, ensemble de symptômes, l'obsession de la neutralisation. C'est un mot qui existait assez peu en droit fiscal, qui aujourd'hui prolifère dans la loi, dans les travaux parlementaires. On passe son temps à neutraliser. Évidemment, il y a une question que je n'ai pas approfondie, ça nous emmènera un peu loin. Est-ce que c'est la même chose d'avoir un impôt neutre, un impôt neutralisé? La réponse est non, mais le temps m'est compté. Deuxième constat, un alignement par le bas. Parce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'impôt le plus neutre, c'est pas d'impôt du tout. Et qu'il est plus facile aussi, dans une démarche jurisprudentielle, de baisser un impôt, d'éliminer une taxe, que de hausser. Le juge n'a pas de pouvoir créateur en matière fiscale. Alors, je nuance, parce que ça peut aussi avoir pour effet d'abolir des exonérations. Je sais que vous êtes suspendu à la décision du Conseil constitutionnel sur la QPC de la société Layer. Donc tout l'argument de la société Layer consistait à dire il y a une taxe à 3% sur les sociétés, sur les dividendes distribués auxquels échappent les groupes de sociétés. C'est pas juste. Tout le monde, c'est la première partie la taxe de 3% sur les groupes sociétés, ça c'est injuste. Ça c'est juste. Et ce qui est injuste, c'est qu'il n'y en ait qu'une partie qui en profite. Et le Conseil constitutionnel a été méchant. Je vous lis la solution. Les mots, ouvrez les guillemets, entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223, fermez les guillemets, blablabla, doivent être déclarés contraires à la Constitution. Donc sa réponse a consisté à dire, en fait, ce qui est contraire à la Constitution, c'est qu'il y en ait certaines qui échappent à l'imposition, c'est pas que certaines soient soumises à l'imposition. Donc là, vous avez un processus d'élimination de l'atteinte à la neutralité de l'impôt qui va se traduire par un sujettissement de tout le monde à l'impôt. On parlait tout à l'heure des citations. Est-ce que je vais jouer au jeu des citations ? Il y a deux citations qui revenaient de manière un peu répétitive. Le mot est faible. Lors du jury de l'agrégation, du concours de l'agrégation, qui était « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » et « Il faut que rien ne change, il faut que tout change pour que rien ne change ». Et donc, je vous propose une sorte de fusion un peu monstrueuse qui est « Il faut que tous soient frappés pour que rien ne change ». Alors maintenant, Monsieur le Président, il me reste combien de temps ? 5 minutes ? 4 minutes ?
Le temps que vous voulez.
Oh, vous êtes trop bon. Mais vous êtes agrégé, vous savez, c'est... Chers collègues, vous pouvez être méchant, c'est votre rôle. Mais même si vous l'apprendre en tant que président, c'est à vous de faire régner l'ordre à la tribune. C'est presque une faute professionnelle, hein, je ne sais pas.
Non, mais j'exerce ma liberté en vous donnant celle de poursuivre.
Donc, une fois qu'on a vu un peu ce triomphe du principe de la neutralité de l'impôt, j'en viens à mes interrogations que je vous soumets. Est-ce qu'on n'a pas là une ruine du droit qui est en jeu derrière ce principe de neutralité ? Alors, première remarque, à y regarder de plus près, si la neutralité de l'impôt se résume à éliminer les discriminations fiscales, en quoi se distingue-t-elle de l'égalité ? Et très honnêtement, on parlait hier de la neutralité qui distingue mal de l'impartialité. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir en quoi cette neutralité-là se distingue d'une certaine lecture de l'égalité. Je pense que c'est tout sauf neutre de choisir de parler de neutralité de l'impôt plutôt que d'application du principe de l'égalité. Je crois qu'il y a un recul derrière ce qui est perçu comme une forme de danger de l'égalité. Je pense que de ce point de vue-là, la promotion du principe de neutralité de l'impôt est tout sauf neutre. C'est un choix politique. Pourquoi est-ce que l'égalité est vue comme dangereuse ? D'abord parce que l'égalité admet des tempéraments. Vous savez bien que le principe d'égalité, c'est l'élimination des discriminations, mais avec des possibilités de justification. Le principe de neutralité de l'impôt admet quasiment, ne laisse pas de place à la justification. Il est absolu. Et puis, le principe, la notion d'égalité, elle porte avec elle l'idée d'une action de l'État pour établir l'égalité. L'égalité n'est pas un donné, l'égalité c'est un construit. Or, la neutralité, elle, appelle une passivité de l'État. L'État est le grand absent, finalement, de ce discours sur la neutralisation de l'impôt. Et puis même, si on ouvre un peu le débat, on se rend compte que ce discours sur la neutralité de l'impôt est un faux-semblant. Cette neutralité de l'impôt, lorsqu'on raisonne sur la neutralité comme une non-incidence économique, eh bien, elle devient extrêmement mensongère quand on réfléchit de manière plus globale. Est-ce que vous croyez réellement qu'il y a une neutralité de l'option pour la TVA sur l'impôt sur le revenu ? Un système fiscal qui soit construit sur la TVA plutôt que sur l'imposition progressive, par exemple, du revenu. Non. Mais le principe de neutralité de l'impôt va conduire à une promotion tous azimuts de la TVA perçue comme un impôt neutre, plutôt que l'impôt sur le revenu qui, lui, a des effets sur les préférences des acteurs économiques, le vilain. Une petite pique. Mais c'est un peu l'un des problèmes de la fiscalité de l'environnement et de ce fameux double dividende. Quand on y regarde de plus près, ça revient à remplacer de la fiscalité directe ou des prélèvements obligatoires pesant sur les revenus par de la fiscalité indirecte qui est vue par les économistes comme tellement préférable parce qu'elle est plus neutre. Et le double dividende de la croissance économique, en fait, c'est les projections de leur calcul sur les effets sur l'économie d'une fiscalité plus neutre. Plus grave encore, d'après les dangers de l'égalité, l'égalité vue comme un danger, disons, c'est que cette neutralité de l'impôt débouche sur une déréalisation du droit. Reprenons un petit peu le raisonnement. La réalité est fondamentalement économique. Vous avez une entreprise, qu'elle soit sous forme individuelle, sous forme sociale, sous forme de groupe de société, n'a pas d'importance ou ne devrait pas avoir d'importance. La réalité, c'est cette entreprise. Et donc la neutralité de l'impôt, le principe de neutralité de l'impôt, débouche sur une totale, ou pratiquement totale, ou appelle en tout cas une totale indifférence à la forme juridique de l'entreprise. L'exemple que je donnais de l'exonération des distributions de dividendes en est le meilleur exemple. Que vous soyez en groupe de société ou en société à succursale, ça ne devrait pas avoir d'incidence. Et apparaît à ce moment-là l'image du droit fiscal comme un simple droit de superposition, une sorte de voile qui vient se poser sur la réalité économique, qui a ses... Bon, qui essaye de partir de formes juridiques, parce que le pauvre, c'est du droit, mais qu'on doit neutraliser en évacuant cet attachement sentimental à la forme juridique. Et donc ce voile, cet habillage de la réalité économique, comme il est neutre, il ne doit surtout pas modifier cette réalité économique sous-jacente, la seule véritable réalité économique, la seule véritable réalité qui le détermine. Et donc, neutraliser l'impôt aboutit à faire disparaître la portée, la signification des formes juridiques dans lesquelles, par exemple, une entreprise va exercer son activité. Et c'est même, à la limite, vu comme un argument, vous voyez la perversité, ça peut être un argument, je trouve, un peu pervers, qui consiste à dire, en écartant une forme juridique pourrait aller vers une réalité économique, eh bien, on fait disparaître une tentation de fraude à la loi, où les acteurs économiques jouent librement sur les formes juridiques, et donc, pour échapper à l'impôt, eh bien, ils opteront pour une forme juridique plutôt que pour une autre, parce qu'en réalité, ces formes juridiques n'ont aucune signification, aucune portée et aucun sens. Un exemple, c'est cette idée sur laquelle il faut supprimer la taxation des plus-values, parce que sinon, les entreprises vont mettre en réserve plutôt que distribuer des dividendes. Et tout ça, c'est kiff-kiff. Et là, dernière question qui me tracasse. Derrière cette idée d'une réalité économique qui fonderait le droit fiscal et le droit, finalement, serait une sorte de fantôme qui ne doit pas modifier la réalité économique sous-jacente, la seule vraie, je me demande s'il n'y a pas une sorte de figure inversée de l'abus de droit en droit fiscal qui conduit à écarter des actes juridiques, des formes juridiques, dès lors qu'elles n'ont pas de substance économique. Je caricature, je résume, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est un domaine qui est extrêmement vivant et vivace de la question de la lutte contre l'évasion fiscale agressive, de la portée de l'abus de droit, etc. Et je trouve que la manière dont on pose le problème par rapport à l'abus de droit ressemble étrangement à la manière dont on pose le droit à propos de la neutralité de l'impôt. En conclusion, alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas forcément injustifié de vouloir aligner la réalité juridique et la réalité économique, ou une certaine réalité économique. Effectivement, la double imposition économique, la triple imposition économique, elle n'est pas, c'est pas une fiction, elle peut exister et on peut comprendre que l'État puisse souhaiter en atténuer les effets perturbateurs sur l'économie. Ce qui me pose un vrai problème, c'est lorsqu'on prétend absolutiser cet effort de l'État pour atténuer les distorsions que peut produire l'impôt, pour en faire un principe de neutralité de l'impôt qui se trouve être le principe déterminant du droit fiscal. Il est possible que l'impôt ait des effets différents selon les entrepreneurs. Il est possible qu'au nom de l'égalité, du principe d'égalité, qui lui est un principe, je crois, structurant, du principe de la préservation de la liberté économique des entrepreneurs, l'État souhaite intervenir pour limiter ces effets perturbateurs. Mais, un, c'est une responsabilité à assumer par le législateur. Et donc, je suis contre cette disparition de l'État dans cette absolutisation du principe de neutralité. Et deux, les différences de situation juridique sont des différences qui peuvent justifier un traitement différent. et ce qui revient à prendre le droit au sérieux, y compris pour la compréhension et l'application du principe d'égalité. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, on avait un peu bousculé le programme en empiétant sur la neutralité du politique, passant de la neutralité à l'international à la neutralité du politique. Mais on voit qu'il y a quand même ce même fil rouge, justement, c'est très intéressant, que ce soit la neutralité du net, que ce soit la neutralité en somme du droit international ou celle du droit fiscal, c'est que ça ne fonctionne pas, puisqu'à chaque fois, au fond, neutralité et droit sont antinomiques. Si le droit suppose intervention, suppose norme, décision, prescription, il y a nécessairement intervention et on essaye de sommer, de parer le droit de cette vertu ou de cette apparence de neutralité, mais qui consubstantiellement ne fonctionne pas.